Aujourd'hui, on va continuer dans notre étude de la lettre aux Hébreux. Si vous voulez vous tourner dans Hébreux 3, 8. Hébreux 3, 8. 3. Chapitre 3. Pourquoi j'ai dit 3, 8 ? Parce que c'est en haut de la page. Pour dire que ça va jusqu'au verset 8. On a rappelé il y a quelque temps que la prière, elle doit être répétée, et on a pris l'image de comment casser le béton. Et on avait rappelé que pour casser le béton, on prend pas une masse et on tape un coup ici, on tape un coup là. Non, pour casser le béton, il faut se fixer un endroit. Et avec la masse, si on n'a pas de marteau-piqueur, ou avec le marteau-piqueur, c'est d'insister dans un endroit. Insister et insister. Donner des coups, même s'il ne se passe encore rien, il ne faut pas se décourager, il faut continuer à taper. Et puis, miracle, au bout d'un moment, il va y avoir une petite brèche qui va se créer, une petite étoile d'abord. Et puis, si on continue de donner des coups dessus, il va y avoir des petits morceaux qui vont commencer à se désagréger. Et là, maintenant, il y a un point faible. On peut continuer et arriver à casser une dalle de béton en entier. Mais si on avait été se promener à droite, à gauche, en donnant un coup là, en donnant un coup de toutes ses forces ici, rien ne serait arrivé. Et un ami pasteur disait que la prière, c'est un peu comme ça. La prière, il faut se concentrer sur certains sujets. Il faut pas les laisser tomber et continuer. Et je vous dis ça, en fait, c'est pour dire que moi-même, souvent, je me décourage dans la prière. Et je sais qu'il y a quelques années, on avait commencé à prier pour qu'on puisse avoir accès à une radio chrétienne, une radio FM, pas seulement les radios maintenant. Il est relativement facile d'avoir accès à une radio sur Internet. Mais qui écoute vraiment les radios sur Internet? Sauf si on veut aller écouter ce qu'on nous a dit qu'il y avait quelque chose et qu'on cherche. Quand j'étais aux États-Unis, avant que je devienne chrétien, je tournais la radio en voiture. Je mettais la radio en voiture. Et en cherchant les stations, je tombais sur plusieurs stations chrétiennes qui parlait de la Bible, qui parlait de la foi. Et en fait, c'est une façon d'évangéliser qui est très fructueuse dans le secret de sa voiture, de sa tranquillité, des paroles dites de la Bible qui sont dites, peuvent être vraiment reçues et écoutez très bien, et bien comprise, ou bien c'est un premier pas vers la foi. Et il y a plein de stations de radio chrétienne aux États-Unis, et il y a plein de titres, plein de noms de ces programmes. Je traduis, il y en a un qui s'appelle « Retour à la Bible », l'autre « À travers la Bible ». Un autre s'appelle « Vérité qui transforme »,« Espoir pour le cœur »,« Comment vivre ». Un autre que j'aime bien, « La chapelle des ondes ». Classe Radio Bible. Un autre, c'est « Zoom sur la famille ». Un autre, c'est « Havre de repos ». En contact, « La grâce pour vous ». Des idées pour vivre. Et ainsi de suite. Et quand on avait commencé à prier pour une station, pour avoir accès à une station de radio, malheureusement, on s'est découragé. À un moment, on a cru pouvoir peut-être avoir accès à une radio qui a été reprise par l'Église catholique. Et sur cette radio, on a un tout petit programme d'une demi-heure une fois par semaine. Mais je dois dire qu'on a arrêté de prier pour cela. Et le mercredi soir, le mardi matin, le mardi midi, j'ai vraiment à cœur de recommencer à prier pour cela. On n'a pas de moyens, on n'a pas d'experts, quoique en fait on a quelqu'un qui a fait de la radio dans ses années de jeunesse, qui est toujours jeune de cœur. Et je pense qu'il faut qu'on continue à taper avec le marteau de la prière sur ce sujet de prière. Ça n'a pas besoin d'être des longs sermons, mais des petits passages réguliers qui peuvent toucher les cœurs. C'est fabuleux. Ici, si la salle est pleine, on aurait 150 personnes. Quand on parle à la radio, même si c'est une toute petite station de radio, peu de puissance, on a tout de suite au moins 3000, 2000, 3000 auditeurs qui vont être capables d'écouter. Et quand on, à l'époque où on priait, on se demandait quel titre on allait donner si jamais on obtenait un programme de radio, quel titre on allait utiliser. Et j'étais tenté de reprendre le titre d'un programme de radio de mon pasteur à Seattle. J'étais converti dans une église Calvary Chapel à Seattle. C'est le pasteur Wayne Taylor qui est venu souvent ici, sa femme Cathy qui va faire la conférence en avril. Et le nom de son programme, c'est Consider Jesus, considérer Jésus. Et je trouve que c'est une belle invitation pour les chrétiens comme pour les non-chrétiens. Mon pasteur est quelqu'un qui enseigne la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et qui recommence. Il est très biblique. Et le titre qu'il avait pris, Consider Jesus, considérer Jésus, en fait c'est un titre qui vient de la Bible. Et il est tiré, ce titre, de l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 1. Ah ! Ce matin, j'aimerais que nous continuions de considérer Jésus tous ensemble. Je vais lire et on va prier. Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées, c'est une autre traduction de considérer, sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus-Christ. Il est resté fidèle à celui qu'il a établi, tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. En effet, il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, dans la mesure où celui qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qui allait être dit, mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. On va s'arrêter ici. Considérez, ou comme il est dit ici, portez vos pensées. C'est poser notre esprit sur quelque chose. C'est considérer. Et l'idée, si le mot en français de considérer, il vient de deux mots latins, cum, avec, et sidere, sidère, qui est le mot qui désigne les astres, les étoiles. On parle du vide intersidéral. Donc l'idée, c'est de ne pas regarder en passant, de voir en vitesse, comme on dit, jeter un coup d'œil. Non, l'idée, c'est de regarder, de mettre les yeux, de fixer nos regards, nos pensées, c'est d'étudier, de concentrer à la façon d'un astronome spirituel qui se mettrait la nuit derrière son grand télescope pour voir, considérer une étoile. Et Jésus, vous savez qu'il est, il est appelé dans plusieurs endroits, notamment dans l'Apocalypse 22, 16, il est appelé l'étoile du matin. Jésus, ça devrait être la vraie star dans nos vies. Aujourd'hui, il y a plein de stars, plein de midinettes, de starlettes. Ça me fait toujours un peu sourire parce que j'entends parler de cette émission « Danse avec les stars ». Et bien souvent, je ne sais pas qui est l'inconnu et qui est la star parce qu'ils ne sont pas vraiment très connus, ils n'ont pas vraiment de quoi être admirés. Ils font une carrière dans le monde du spectacle et on les apprécie et je ne veux pas les dénigrer. Mais toutes ces stars ou ces starlettes pâlissent tellement en comparaison de l'étoile du matin, de la vraie star qu'est Jésus-Christ. Amen. Paul disait, mon but, c'est de le connaître, lui. La puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui par la mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Ça peut être le but de nos vues, c'est de considérer Jésus-Christ. C'est de le voir, de le découvrir, de découvrir sa beauté. Il y a quelque temps, on a eu une super lune. La lune était pleine lune, mais elle était en plus très proche de la Terre. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est fantastique de voir cet astre briller. Et nous sommes invités à porter nos pensées, à considérer, à examiner au télescope, au microscope, tous les scopes que vous voulez, celui qui est Jésus. Il nous dit « ainsi donc ». Et là, il fait référence à tout ce qui a été vu auparavant. On a vu que Jésus-Christ, il était supérieur à toute chose. Il était plus grand que les anges. Il était plus grand d'abord, on l'a vu, qu'il était plus grand que les prophètes, il était plus grand que les anges. Au chapitre 2, on nous a dit de faire attention à ne pas dériver, à ne pas nous laisser emporter par les courants qui nous éloignent de Jésus-Christ, qui nous font dériver, qui font qu'on ne s'intéresse plus trop à lui. C'est progressif, on ne s'en aperçoit pas, et puis à la fin, on s'aperçoit qu'on est très loin de lui. Il est supérieur aux prophètes, c'était au tout début. C'est par lui maintenant que dans les temps derniers, Dieu nous parle. Nous avons vu qu'au chapitre 2, qu'en fait, il était parfaitement homme, et il était parfaitement Dieu. Et j'ai repris cette expression, « There is a man in the glory ». Ça, c'était l'accent écossais d'un professeur de Bible qui nous expliquait qu'en fait, il y avait un homme dans la gloire. Souvent, on a tendance à dissocier les deux. On dit, bon, ben, il est venu pendant un temps, mais là, il était vraiment qu'un homme. En fait, il est dit qu'il s'est dépouillé de ses prérogatives divines. Quand il a été poursuivi, quand les chefs juifs l'ont fait arrêter, il aurait pu d'un seul clin d'œil appeler des légions d'anges qui auraient détruit tout l'Empire romain en quelques instants. Mais il n'était pas venu pour montrer sa puissance, il était venu pour payer pour nos péchés. Et donc il a laissé la volonté du Père se faire. Et il nous dit donc, ainsi donc, et en parenthèse, on a expliqué que c'est toujours le problème ou le mensonge des sectes, c'est de dire que Jésus était peut-être un grand homme, il était peut-être un grand prophète. Certaines religions lui reconnaissent le statut de prophète, mais ne veulent pas lui reconnaître la capacité ou la condition d'être égal à Dieu. Il nous dit, ainsi donc, puisque Dieu est déjà, Jésus-Christ est déjà supérieur à toutes ces choses qu'on a considérées, ainsi donc, frères et sœurs saints, comme on l'a rappelé depuis qu'on étudie la lettre aux Hébreux, il est toujours très important de connaître le destinataire d'une lettre. Et là, on a dit que, grosso modo, cette lettre était destinée à des Juifs qui étaient venus à Christ, qui étaient passés de la foi orthodoxe juive à la foi chrétienne, avec Jésus-Christ comme Dieu incarné, qui venait sauver les hommes en mourant à la croix pour leurs péchés. Ils étaient donc devenus chrétiens. Il y en avait qui étaient vraiment très engagés, qui étaient convaincus de la vérité de l'Évangile. On a dit qu'il y en avait un autre groupe, c'est ceux qui n'étaient pas très engagés. Ils avaient entendu, ils pensaient que c'était bien, que ça avait l'air raisonnable, mais ça leur causait pas plus d'émoi, ça ne causait pas plus de changement dans leur vie qu'autre chose. Et puis le troisième groupe, c'était aussi tous les Juifs, hein, c'est une lettre aux Hébreux, mais les Juifs qui étaient païens, qui n'avaient aucune considération réelle pour Dieu. Et donc cette lettre, elle s'adresse à ce grand public de Juifs, ceux qui sont engagés, convertis, engagés, ceux qui sont intéressés mais pas consacrés, et puis ceux qui ne sont pas encore venus à la foi en Christ. Et à travers eux, bien sûr, l'Esprit-Saint veut nous parler, à nous aujourd'hui. Est-ce que Christ, pour moi, c'est toute ma vie? Est-ce que je suis prêt, alors ça ne veut pas dire nécessairement à devenir pasteur ou missionnaire, mais est-ce qu'il est toujours dans mes pensées, je lui parle chaque jour, je prie, je lui remets mes problèmes, je me réjouis de sa présence dans ma vie? Est-ce que ça, c'est une part importante, prépondérante de votre vie ou pas? Parce qu'il y en a, comme les Juifs qui disaient, ouais, c'est pas mal, mais c'est bien, mais faut pas être fanatique. Vous avez peut-être des personnes dans vos familles qui vous disent, tu es devenu un peu trop fanatique. Moi, c'est ce que ma maman me disait quand elle avait appris que je voulais devenir pasteur, qu'elle était contente parce que je rentrais en France, elle habitait Antibes, mais elle pensait qu'on m'avait un peu lavé le cerveau. Et elle était convaincue que c'était Mike, mon beau-frère, qui était venu faire la retraite il y a 2 ans d'Alaska. Elle a dit, oh, lui, il t'a lavé le cerveau, ou il est fanatique et toi, tu le deviens. Mais c'est une bonne chose que de devenir fanatique pour Christ. Ne devenez fanatique d'aucune autre chose, mais n'ayez pas mettez pas le frein si vous sentez que Jésus-Christ prend une part de plus en plus importante dans votre vie. Au contraire, réjouissez-vous et allez-y. Et donc, il savait que ces Juifs, surtout ceux qui n'étaient pas très convaincus, ils avaient tendance à se dire, c'est bien beau cette nouvelle foi chrétienne avec Christ comme étant le sauveur et tout ça, mais ça nous ramène des persécutions. La persécution commençait à venir en Israël sur ceux qui s'étaient convertis à la foi chrétienne. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on n'est pas persécuté dans nos familles si on devient chrétien, mais peut-être qu'on est un peu moqué ou on nous fait des reproches, on nous dit qu'il ne faut pas, faut pas exagérer, il y a d'autres choses que la foi dans la vie. Et là, l'auteur de la lettre, l'auteur de la lettre, certains parlent de Paul, d'autres disent que c'était Apollos, d'autres disent que c'était Luc qui l'a écrit sous la dictée d'Apollos. La réalité, c'est qu'on n'en sait vraiment rien. Il y a des raisons pour penser que ça n'était pas Paul, parce que ce n'était pas son style, ou peu importe. La seule chose qui est certaine, c'est que c'est l'Esprit Saint qui a écrit cette lettre. On y apprend des choses formidables sur Jésus-Christ, sa position, sa supériorité à toutes les autres choses. Et ce qui est remarquable, c'est que des fois, vous savez que le soleil est énorme par rapport à la Terre. J'ai oublié de noter, mais c'est des fois des... On pourrait faire un calcul, je ne sais plus. Mais c'est des milliers de fois plus grand que la Terre. Et pourtant, on peut prendre une pièce de 1 centime et la mettre devant nos yeux assez proche pour cacher le soleil. C'est tout petit, le soleil est énorme, mais si c'est assez proche de nos yeux, ça va nous cacher le soleil, quelque chose d'énorme et de magnifique. Entre parenthèses, j'en profite là parce qu'on parle d'œil et tout ça, j'ai l'œil très rouge. Donc c'est une petite infection, c'est pas très beau à voir. Donc si vous me parlez, regardez plutôt l'œil gauche aujourd'hui. Tout ça pour dire que Christ peut être caché et nous devons faire tous nos efforts pour le considérer. Ils avaient tendance à se dire on va laisser tomber, mais il les appelle des frères et sœurs saints. Vous qui avez part à l'appel céleste, considérez Jésus, considérez vos pensées, portez vos pensées sur lui. Frères, on a vu au chapitre 2, verset 11, que Christ n'avait pas honte de nous appeler des frères. Et c'est un terme générique, donc c'est des frères et sœurs. Il n'y a pas de sexisme, il n'y a pas de machisme en Christ. Il n'y a plus d'homme ni de femme. Il nous dit que nous sommes des frères, donc il se considérait que tous les croyants, donc là il parlait des croyants, il leur dit qu'ils sont saints. Est-ce que vous vous êtes jamais considéré comme un frère ou une sœur saint ou sainte? On dit souvent dans les milieux évangéliques « Bonjour frère !» Mais est-ce qu'on vous a jamais dit « Bonjour frère très saint » ou « frère saint » ? Alors j'en vois qui disent non, et c'est normal parce que moi, on sait tous, et le diable est là pour nous le rappeler, on n'est pas si saint que ça, mais c'est parce qu'on comprend le terme saint avec le sens qu'il a pris historiquement dans la religion catholique, notamment pour dire quelqu'un qui est tellement au-dessus des autres qu'il est reconnu comme ayant une onction. En fait, le terme de saint, ça veut dire simplement vous qui êtes séparés, vous qui êtes mis de côté pour le service de Dieu. Et vous êtes mis à part, tous les chrétiens, tous ceux qui croient en Christ, au sacrifice qu'il a accompli sur la croix, sont des saints. 2:11 nous dit que nous sommes sanctifiés. Le chapitre 2, verset 11, il procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule origine. Nous sommes sanctifiés. Un terme qui est des fois un peu religieux, et cette version dont j'utilise pour lire le texte et plus moderne, c'est la Bible Second 21. Mais peut-être vous avez une version plus ancienne qui dit « Vous qui participez à la vocation céleste ». Ça fait très pieux, ça fait très religieux, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que tu participes à la vocation céleste, mon ami ? Peut-être qu'on devrait faire ça quand on parle aux étudiants à la fac, au stand, leur dire « Est-ce que vous voulez participer à la vocation céleste ?» Ils vont nous regarder d'un air bizarre et ils vont dire « Laissez-moi tranquille ». Là, c'est déjà un peu plus parlant. C'est vous qui participez à l'appel céleste. Est-ce que ça veut dire simplement vous avez reçu un appel du ciel. C'est valable pour les chrétiens juifs et non juifs. L'idée du ciel, cet autre domaine du domaine terrestre, c'est la dimension spirituelle de notre existence. Dans Éphésiens 3, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que nous sommes au niveau spirituel, nous avons tout ce qu'il nous faut, on n'a pas besoin d'inventer de nouvelles choses. Toutes les bénédictions spirituelles sont nôtres si on se tourne nos pensées vers le ciel, si on tourne nos pensées vers Dieu. Éphésiens 2 explique aussi que Dieu nous a tirés de la mort pour nous asseoir dans les lieux célestes. Vous êtes assis sur une chaise à coque en plastique achetée chez Metro. Un jour, on espère pouvoir les changer contre des sièges encore plus confortables. Mais vous ne saviez pas que vous êtes assis dans les lieux célestes. Si vous êtes chrétien, spirituellement, vous êtes aussi dans les lieux célestes. Et vous êtes même assis dans les lieux célestes. Dans l'Épître aux Philippiens, Paul, au chapitre 3, versets 13 et 14, nous dit « Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. » Il parlait d'une course, celui qui gagne la médaille d'or. « Mais je fais une chose, oubliant tout ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Christ Jésus. » Il y a un appel à courir pour Jésus et Paul veut le faire de tout son être, il court. Et l'expression, en fait, c'est lorsque on fait une course, un sprint surtout, parce que là, il faut vraiment tout donner au dernier moment. Il y en a qui se jettent sur le fil au dernier moment. Ils peuvent être à la même distance que l'autre. On voit ça après au ralenti. Mais ils se jettent sur la ligne pour gagner le prix, pour gagner la médaille d'or. Et Paul, c'était son état d'esprit. Il voulait tout faire, il avait considéré Jésus et il courait pour gagner le prix. C'est d'ailleurs de là que nous avons pris le thème de la conférence des pasteurs dont Tony vous a parlé. On était une centaine et on a considéré comment on peut courir vers le but. En anglais, on dit « to press forward the goal ». Pas « press forward le général de Gaulle », mais « press forward the goal ». Gagner, courir pour gagner, tout donner. Est-ce que des fois, on court juste pour participer ? Le baron Pierre de Coubertin, qui a réactivé les Jeux Olympiques dans l'ère moderne, avait cette phrase bien connue, qu'on cite aux gens qui n'ont pas gagné. « L'important, c'est de participer. » Mon œil. Mon œil. Le bon. Franchement, est-ce que vous croyez que les gens se lèvent tous les matins à 4 heures du matin pour aller passer 5 heures sur la patinoire juste pour dire « j'ai participé. C'est ridicule. Alors c'est vrai, c'est bien, c'est mieux que d'être invalide ou de ne pas être un très bon athlète. C'est bien d'arriver près du but, mais le but c'est la médaille d'or. Est-ce que nous aussi on se contente de dire ben je participe, hein. Je viens à la messe tous les dimanches pour les catholiques, je viens au culte tous les dimanches, je vais même à quelques réunions de prière une fois de temps en temps, et puis s'il y a une étude biblique, j'y vais, mais il ne faut pas être trop fanatique. Il est important de fixer nos regards sur les choses célestes. Philippiens 3:20 disait « Notre cité, elle est dans les cieux ». En ce moment, il y a des gens qui, il paraît qu'il y a une pagaille formidable dans les aéroports américains avec la nouvelle loi signée par le nouveau président américain. Il y a un juge qui vient de déclarer qu'il ne pouvait pas renvoyer ceux qui étaient déjà là parce qu'ils avaient été admis correctement. C'est la pagaille. Est-ce que vous êtes français? Est-ce que vous êtes anglais? Vous avez brexité? On ne vous veut plus ou on vous veut encore? On a à prendre en compte ces considérations quand on vit ici-bas, mais notre citoyenneté, elle est dans les cieux. C'est merveilleux. Et donc le fait qu'on ait un appel à aller vers le ciel, ça devrait influencer, motiver notre vie. On parle de se comporter d'une manière digne de notre appel. Et pour revenir aux Jeux Olympiques, si le comité olympique français vous appelait à participer à une course parce que vous avez déjà un certain niveau, vous voudriez sans doute être digne de votre appel. Donc vous vous entraîneriez davantage, vous feriez un régime alimentaire avec des conseils de coach, etc. Et de la même façon, on devrait tout faire pour être digne de l'appel qu'on a reçu de Dieu. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour être vraiment digne de cet appel céleste? Est-ce qu'il y a des choses que je dois laisser tomber? On verra plus tard que, toujours dans cette idée de course à pied, au chapitre 12, nous devons laisser tomber tout ce qui peut nous retenir, ce qui nous encombre. Quand Usain Bolt court le 100 mètres ou le 200 mètres, il ne met pas des chaussures de montagne pour faire ça. Il ne met pas un gros manteau, une casquette sur la tête. Non, il est pratiquement juste en short et avec des bonnes chaussures de course. Et il donne tout ce qu'il a. Et de la même façon, nous aussi, on doit laisser tomber tout ce qui nous retient. Il dit, portez vos pensées ou considérez l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus. Entre parenthèses, Christ, mais c'est le texte original, c'est plus probablement simplement Jésus, l'homme Jésus. Est-ce que vous êtes surpris que Jésus soit appelé un apôtre? On connaît les 12 apôtres de Jésus, mais d'appeler Jésus, à première vue, ça nous rend confus. En fait, le terme d'apôtre, on va faire un peu de grec, vous allez apprendre du grec aujourd'hui. Le mot apôtre en grec, ça se dit apostolos. Tout le monde dit apostolos. Maintenant, vous parlez grec. Apostolos. En fait, la traduction de apostolos, c'est pas une traduction, c'est simplement ce qu'on appelle une translittération. On n'a pas de mot, donc on prend le mot en grec, on lui donne une petite version, un petit style français. Apôtre. Les Anglais disent apostles. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est qu'un apôtre? C'est quelqu'un, un apostolos en grec, c'est quelqu'un qui est envoyé avec une mission. C'est quelqu'un qui est envoyé avec une mission. Les préfets dans chaque département, c'est les anciens apôtres, on appelait ça les... Je ne sais plus comment, mais Dominici, c'était des gens qui étaient envoyés par le gouvernement central pour être auprès du peuple local et surveiller tout ce qui se faisait pour pouvoir le faire remonter. Et c'est toujours le même principe, les préfets dépendent du ministère de l'Intérieur, ils sont les représentants de l'État et ils font remonter tous les problèmes qu'ils peuvent connaître à l'autorité centrale qui se trouve pour nous à Paris. Et donc, Jésus a envoyé ses disciples, qu'on a appelé les apôtres, les 12, mais Dieu l'a envoyé. Et c'est en ça qu'il est représentant de Dieu le Père. Il est l'envoyé de Dieu. Les 12 apôtres étaient les envoyés de Jésus. Jean 8, 42, Jésus nous dit... Et il est dit, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Il y a beaucoup de passages qui nous expliquent pour quelle mission Jésus a été envoyé par le Père. Jean 3, 17, si vous voulez noter. « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais... pour que le monde soit sauvé par lui. » Galates 4, verset 4, « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. » Une de ses missions, c'était que nous devenions des enfants de Dieu. Et puis dans 1 Jean 4, 10, il est dit, « Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il est venu comme le sacrifice qui nous permet d'être pardonné de nos péchés, et on verra plus loin dans la lettre, qu'on est pardonné une fois pour toutes. » Dans le chapitre 2, au verset 17, on avait vu qu'il était décrit aussi Jésus comme notre grand prêtre. Qu'il était un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle, ou un grand prêtre miséricordieux et fidèle. Donc, non seulement Jésus est un apôtre, au sens où il est envoyé par Dieu pour une mission, qu'on vient de rappeler brièvement, mais il est aussi un grand prêtre. Le rôle du prêtre, c'était de représenter les hommes devant Dieu. Et ces deux concepts se rejoignent. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a dit que Jésus était l'intermédiaire parfait entre les hommes et Dieu. Il était ce qu'on appelle le médiateur parfait. Si vous jouez de la guitare, vous avez un médiator, ou un pic, ou un petit bout de plastique, un démo de ce petit instrument de musique, qui ne fait pas de grande musique, mais qui est important pour les joueurs de guitare, c'est d'être un intermédiaire entre vos doigts et l'instrument. C'est lui qui porte vos rythmes, la musique que votre cerveau décide et que vous faites avec vos doigts. Il est donc apôtre et grand prêtre. Et c'est la foi que nous professons. La foi, c'est l'ensemble des éléments qui fondent nos croyances. Les choses qui sont dites dans le texte biblique, nous avons par exemple une profession de foi qui est disponible dans nos statuts pour expliquer ce à quoi nous, en tant qu'Église, nous croyons. Et voilà, tout ça, il dit, considérez Jésus. Mes frères et sœurs saints, vous qui êtes à part, qui avez reçu un appel, portez vos pensées, considérez bien cet envoyé de Dieu, lui qui est un grand prêtre qui peut vous représenter devant Dieu le Père, et qui est le grand prêtre dans la foi, de la foi que nous déclarons. Alors, je vous rappelle, un petit retour en arrière, bref, l'auteur veut montrer aux Juifs qu'il ne faut pas se détourner de la foi chrétienne. Et à l'époque, le héros de la foi juive, de la religion juive, c'était Moïse. Moïse, il a été un homme remarquable. C'est lui qui a reçu, qui avait vu ce buisson brûlant, qui avait pu faire sortir son peuple. Il a reçu les tablettes de la loi, il a reçu la loi sur le mont Sinaï. On a vu que les anges avaient été utilisés avec lui par l'intermédiaire, mais les Juifs avaient le plus grand respect qui soit pour Moïse. Et leur tentation, c'est de dire « Oh, Jésus, il est bien, mais Moïse, qu'est-ce qu'il était formidable !» Et donc, le reste du passage, c'est pour nous montrer que Jésus est supérieur à Moïse. Si je vous dis ça, vous dites « Ben oui, ça, tout le monde le sait, du moins tous les chrétiens le savent. » Mais à l'époque, c'était vraiment un sujet en doute pour eux. Ils étaient prêts à revenir à Moïse et à la loi et à laisser de côté, laisser tomber Jésus et l'Évangile qui leur causaient tant de souffrances, qui leur causaient des persécutions, et ils n'avaient pas encore bien réalisé qui était Jésus. Et donc, cette lettre, elle est formidable. C'est une aventure parce qu'on va passer du temps, on a déjà commencé à passer du temps, à voir la supériorité de Jésus sur toute chose. Sur toute autre personne. Il est. Alors, comme on l'a vu, les prophètes, c'était très bien, mais la révélation par Jésus-Christ, c'est mieux. Il n'y a pas mieux. Les anges, ils étaient des serviteurs, ils étaient formidables, ils pouvaient se déplacer très rapidement, mais Jésus, c'est mieux. Jésus, qui est à la fois homme et Dieu, Il est supérieur, et là il va leur montrer, dans les versets qui suivent, qu'il est supérieur à Moïse. Et il nous dit que Jésus est resté fidèle à celui qu'il a établi. Donc, Jésus est resté fidèle à Dieu le Père. Tout ce qu'il faisait, c'était selon la volonté du Père. Et c'est la raison pour laquelle il faut considérer Jésus. Pourquoi est-ce qu'on doit considérer Jésus ? Parce qu'il est plus grand que toute autre personne. L'autre personne que les Juifs respectaient beaucoup, c'était Abraham. Mais il était dit dans le Deutéronome 34:10, « Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. » Pour eux, c'était le top. Et on leur expliquait que Jésus-Christ, en fait, il était venu pour accomplir la loi et pour nous donner la liberté avec la grâce. La grâce était venue par Jésus. Et quand vous parlez à quelqu'un, de quelqu'un qu'ils vénèrent, qu'ils adorent, il faut faire preuve de tact. Notamment en politique. Si vous dites que Macron, il est infiniment supérieur à Hollande, ou que Marine Le Pen est infiniment supérieure à François Fillon, vous risquez de, suivant les gens avec qui vous parlez, de vous retrouver à vous battre, à vous donner des coups de poing. Il fait donc référence à la fidélité, il dit « Moïse, c'était bien, il y a une similarité, Jésus a été fidèle à celui qu'il a établi, à Dieu le Père. Et Moïse aussi avait été fidèle dans toute sa maison. Il va parler du concept de la maison. C'est pas la maison où on habite. C'est l'ensemble d'une population. C'est l'ensemble des croyants de l'époque de Moïse. Il avait été fidèle avec tous les Juifs, tous les croyants en Dieu de l'époque. Donc il reconnaît que Moïse, c'était bien, mais là il va montrer que Jésus, c'est mieux. Moïse, oui. Jésus, encore mieux. Et je crois que c'est souvent une bonne façon de procéder avec des gens qui ont une autre croyance que la vôtre. C'est de leur dire que ce qu'ils croient, c'est déjà quelque chose qui leur permet d'avoir une certaine moralité, qui leur permet d'avoir une notion de péché peut-être, mais sans dénigrer leur croyance, leur dire en fait, moi j'ai rencontré quelqu'un qui est formidable, qui a dépassé tout ce que je pouvais penser et croire avant. Et là, vous pouvez leur parler de ce qui est Jésus, leur faire considérer Jésus. Alors vous ne leur donnez pas un télescope de Hubble tout de suite, vous leur donnez peut-être une loupe, ils peuvent regarder un peu et considérer Jésus. Mais il n'empêche que Jésus est supérieur parce qu'il a été, verset 3, jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, dans la mesure où celui qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qui allait être dit, mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or sa maison, c'est nous. Et puis il ajoute, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Donc la maison de Dieu, à l'époque, c'était Israël. Aujourd'hui, c'est l'Église qui inclut les Juifs messianiques, les Juifs qui se sont convertis à Jésus. Ils font partie d'une seule maison. Il n'y a plus de mur de séparation entre les Juifs et les chrétiens et les païens qui sont devenus croyants. Il nous dit la maison. C'est répété 7 fois entre les versets 2 à 6. Donc c'est le peuple de Dieu, c'est une image de sa congrégation, la congrégation de son peuple. Et au verset 6, il dit même qu'aujourd'hui, nous sommes sa maison. Nous les croyants, nous sommes la maison. Ce qui est incroyable, c'est que Dieu désire habiter avec son peuple. Que dans tout l'espace de l'univers, nous sommes la maison qu'il veut habiter. Pierre dira dans 1 Pierre 2,5 « Édifiez-vous comme des pierres vivantes pour former une maison spirituelle. » Dieu, qui est le Saint, il est dit dans le psaume 22 qu'il siège au milieu des louanges d'Israël. L'Apocalypse 21,3 dit « Voici le tabernacle de Dieu, la tente où Dieu habite avec les hommes. » Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu sera lui-même sera avec eux. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 6,9 « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Éphésiens 2,22 nous dit que nous sommes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Moïse a été fidèle. Quand Dieu lui a dit « Va, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites », il a obéi. Il est même dit dans l'Exode 40,16 « Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné ». Mais on sait qu'il a fait des erreurs. On sait qu'il a mis Dieu en colère parce que Dieu lui avait dit de parler au rocher et l'eau coulerait. Lui, il a frappé une fois le rocher, il l'a frappé 2 fois. Et il est dit que Dieu lui a dit, parce que tu as fait cela, tu n'entreras pas dans la terre promise. Et on se dit, mais c'est un peu sévère comme jugement. En fait, Dieu lui avait dit de lui faire confiance, de frapper une seule fois. Et on sait en fait que ça désignait que frapper le rocher, c'était une référence à la croix. Dieu a frappé son fils une fois, il a été offert en sacrifice une seule fois. Et il n'y avait pas besoin de l'offrir une deuxième fois, une troisième fois. On verra lorsque l'auteur s'appesantit sur le sujet combien c'est répété et répété. Moïse a été fidèle, mais il n'est pas parfaitement. Jésus a été fidèle. Dans Jean 17, dans la prière au Père, il dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait complètement. » La fidélité, c'est une qualité grandement appréciée par Dieu. Quel que soit le travail que Dieu nous demande de faire, nous devons être fidèles. Nous devons être des personnes sur lesquelles on peut compter et sur lesquelles Dieu peut compter. On sait que notre plus grande récompense, c'est Matthieu qui le... Dans Matthieu 25, 21, plutôt, il est dit, son maître lui dit, « Bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Lorsqu'on est fidèle, on est aussi un bon représentant de celui qui nous demande de faire quelque chose. Et je vous pose la question, est-ce que vous êtes fidèle à votre appel ? Votre appel, ça peut être d'une maman, être une maman qui enseigne ses enfants dans les voies de Dieu, qui parle à ses enfants de Jésus. Votre appel, ça peut être un témoin vivant au travail. Est-ce que les gens savent que vous êtes chrétien à votre travail ou est-ce que vous êtes des agents secrets pour Dieu ? Moïse, en fait, c'était par beaucoup d'aspects une préfiguration de Jésus-Christ. Il avait été menacé comme nourrisson par le pharaon. Il avait échappé au massacre. On sait que Jésus a échappé au massacre ordonné par Hérode. Moïse a amené la loi sur les tablettes de pierre. Jésus a été l'instrument de l'Esprit qui écrit sur les cœurs humains. Tous les deux ont été utilisés par Dieu et sont toujours utilisés. Jésus est toujours utilisé par Dieu pour nous libérer de l'esclavage. Satan, un être réel, un ange déchu, veut que nous soyons esclaves du péché. Parce que ça revient à le suivre au lieu de suivre Dieu et Jésus. Il dit, nous sommes sa maison. Donc oui, aussi le fait que c'est bien d'habiter dans une maison, mais on a plus d'admiration pour celui qui a construit la maison. On apprécie l'architecte, on apprécie le bâtisseur davantage que celui qui vient juste pour habiter dans la maison. Celui qui a construit la maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Et dit, de toute façon, on sait que toute maison est construite par quelqu'un. Et c'est la personne qu'on devrait admirer ou être reconnaissant. Pour son service. Et puis il ajoute, celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Ça, c'est un verset que vous pouvez utiliser pour montrer que Jésus-Christ est Dieu. Il vient de dire qu'en fait, Jésus a une gloire supérieure parce que c'est celui qui a construit la maison. Toutes choses ont été construites par Dieu. Donc, Jésus-Christ est Dieu aussi. Il y a une supériorité aussi entre celui qui travaille dans la maison comme serviteur est celui qui est le Fils. Le Fils, c'est quelque chose de... a des privilèges sur celui qui est simplement embauché par le maître de maison. Sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Une autre façon de traduire, c'est la fierté de l'espérance. La preuve que vous êtes un enfant de Dieu, c'est que vous allez tenir jusqu'au bout, que vous allez garder votre foi jusqu'à la fin, avec l'aide de Dieu qui vous fortifie. Fille, retenir sa foi, retenir la confiance et la fierté de l'espérance, ça, c'est un terme de maritime, du monde nautique, ça voulait dire garder le cap. Et lorsque vous devenez chrétien, vous devez garder le cap sur ce que Dieu a révélé pour votre vie, sans vous laisser dériver, sans virer de bord, sans aller vous promener, et ce jusqu'à la fin. C'est la persévérance. On parle des fois du sujet de la persévérance des saints, la persévérance des croyants. Comment est-ce que vous savez que vous êtes vraiment croyant, que vous êtes vraiment un chrétien? C'est que jusqu'à la fin, vous persévérez dans la foi. Et si vous ne persévérez pas, ça veut dire qu'au départ, vous n'étiez pas vraiment croyant, converti, dans la puissance de l'esprit. C'est très important de se résoudre à faire confiance à Dieu jusqu'à la fin. Ce qui est terrible, c'est de passer une vie à le servir et au dernier moment, s'éloigner de lui, le laisser tomber et tout perdre. Tout perdre. Et nous composons sa maison, nous sommes de vrais croyants. Du moment que jusqu'à la fin, on va garder la confiance en Dieu et on va continuer à espérer et on va même être fier de cette espérance. On ne va pas avoir honte de dire que ce qui nous motive dans la vie, c'est Jésus-Christ. Sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement notre espérance. C'est la persévérance, en fait, c'est la preuve ultime de la réalité de notre foi et de notre salut. On est sauvé par Jésus-Christ, mais il faut ajouter l'endurance, aller jusqu'à la fin. Il est notre... Nous sommes les fils, nous sommes les frères de Christ, il est notre Père. Cette semaine, à la conférence en Autriche, on nous a rappelé l'importance de connaître son Père, de connaître Dieu comme notre Père, de savoir que nous sommes ses frères, de savoir que Moïse était un enfant aussi, mais Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est lui qui a tout fait, et nous sommes ses frères, et Dieu est notre Père. Et il y a un pasteur qui a une église en Angleterre, près de Londres, Matt Cotman, qui est déjà passé à Nice. Il est venu prêcher il y a 2 ou 3 étés. C'est un jeune pasteur de 36 ans, je crois, très dynamique, très, très sympa, qui a un ministère fructueux. Mais une de ses blessures qu'il gardait secrète pour beaucoup, c'est qu'en fait, il ne connaissait pas son père biologique. Il avait été adopté par un autre père qui avait épousé sa maman biologique. Et il s'entendait très mal avec ce père. Et en fait, il rêvait de connaître son père, son vrai père. C'est quelque chose avec laquelle il aurait pu vivre sans ce désir satisfait. Mais Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est grand. Et il nous expliquait qu'il y a un an, à la conférence, sa maman, en fait, avait une relation très brève. Elle s'était vue deux fois avec le papa. Et elle était tombée enceinte de cette relation très brève. Le papa, qui ne savait rien de ce qui s'était, qu'il avait un fils, sa maman et cette femme étaient tombées enceintes, avait continué sa vie, mais elle avait perdu sa trace complètement. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il s'appelait Marc, qu'il habitait en Californie, qu'il avait des longs cheveux blonds et qu'il aimait nager. Et donc, elle savait que c'était un grand manque affectif dans la vie de son fils, donc elle avait essayé de retrouver ce papa. Un Marc blond qui aime nager et qui habite la Californie. Malheureusement, ça marche, ça. Il doit y en avoir quelques-uns comme ça. Et puis, comment faire une annonce, peut-être avec un avion qui survole la Californie. Marc, est-ce que tu es là? Mais, avec l'avènement des réseaux sociaux, Facebook, etc., elle a commencé à pouvoir faire des recherches de façon plus efficace. Elle a trouvé sur Facebook un Marc qui avait des cheveux blonds qui étaient courts, mais c'était plus les années 60 ou 70. Elle a envoyé un message à cet homme en lui disant « Voilà, je ne sais pas si vous êtes la personne que je recherche, mais j'ai eu un fils d'un Marc qui habitait la Californie. Et est-ce que par hasard, vous seriez cet homme ?» Alors, on aurait pu penser que cet homme n'aurait rien voulu entendre, etc. Mais lui, au contraire, a dit « Oui, je me souviens maintenant, je ne savais pas que tu étais tombée enceinte. Je suis mariée, j'ai un fils maintenant. » Et en fait, elle avait remarqué que son fils, à lui, ressemblait étrangement à son fils à elle. Les deux frères se ressemblaient énormément. Elle a vu ça sur Facebook. Et donc, elle a appelé son fils, il était à la conférence l'an dernier, en lui disant « Marc, regarde ton email. Pardon, Matt, regarde ton email. » C'était 4 heures du matin. Il est sorti sur la pointe des pieds parce qu'il était dans une chambre avec quelqu'un d'autre, avec un autre gars, et il est parti, il a lu son email. Sa mère lui a dit « J'ai retrouvé ton papa. » Il était rempli d'émotions, d'une joie intense, de pleurs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En fait, il a pris contact lui-même avec son père et il a réalisé que son père, en fait, était chrétien. Non seulement il était chrétien, mais ils avaient fréquenté la même église de Calvary Chapel Costa Mesa, la grande église de Calvary en Californie, à la même période. Ils allaient aux différentes réunions les mêmes jours et ils se sont sans doute vus. Ils se sont même peut-être dit bonjour, je m'appelle Marc, je m'appelle Matt. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il a découvert en fait que son papa était un pasteur de Calvary Chapel, près de Seattle. Et donc, à Pâques dernier, ils ont eu la joie de se retrouver. Dieu lui a donné un père. C'est une histoire incroyable. Sans doute, il va écrire un livre. J'ai dit, oui, on va écrire un livre, on va en faire un film. Les probabilités, c'est impossible. Ça, il a fallu un miracle pour ça. Nous avons un père, nous avons un frère. Notre idée, c'est que sur Facebook, on dit, tiens, un tel ressemble à Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour avoir envoyé Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur. Merci Seigneur parce que nous avons un Père dans les lieux célestes. Souvent, ce que nous passons notre vie à faire, c'est de rechercher notre Père céleste. Nous faisons des tas de choses qui nous éloignent de la vérité que nous trouvons dans la parole que tu nous as donnée, dans la relation avec Jésus-Christ que tu nous invites à recevoir, à cultiver. Sois béni, Seigneur. Merci pour Moïse, qui avait été fidèle, mais qui n'était qu'un serviteur. Merci pour Jésus-Christ, qui est absolument, parfaitement fidèle, qui est envoyé de toi, qui est notre grand prêtre auprès de toi, et qui est celui qui a construit la maison, Seigneur, qui a construit toutes choses. Sois béni, Seigneur. Continue de nous aider à te considérer, à ne pas mettre des choses entre nous et toi, mais apprends-nous à t'examiner, à penser, à poser nos pensées sur toi, Seigneur, à regarder dans ta parole, parce que la foi vient de la parole de Christ. La foi vient parce qu'on entend, Seigneur. Et ça vient dans nos cœurs et ça transforme nos vies. Sois à l'œuvre en chacun de nous, Seigneur. Sois béni. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.